cas que je vais présenter aujourd'hui est une étude en cours que je prépare dans le cadre d'un projet d'anthologie pour le séminaire Raconter la publication à Lyon. Donc, je l'ai déjà présenté il y a quelques mois, donc peut-être que ceux qui ont déjà vu le séminaire, il y aura des choses qui ne vont pas se peindre, mais je me suis quand même saisie de cette journée d'étude pour aller un peu plus loin. Donc, je vous rassure, c'est quand même des nouvelles choses. Et donc, je remercie donc, c'est Mathilde et Anaëlle Jobard qui m'ont lancé sur cette piste. Jusqu'ici, j'ai surtout abordé Antoinette Vézouvière sous l'angle du théâtre, comme la thèse porte sur les femmes dramaturges. Et cette autrice, avant tout connue en tant que poétesse, a écrit une tragédie intitulée Jean Séric, qui a été jouée au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne en 1980. Et lorsque je me suis penchée sur l'étude imprimée de la pièce, j'étais obligée de me concentrer sur les éditions des poésies de Madame Vézouvière dans lesquelles, dans une des rééditions, on retrouve la pièce. Et en fait, je me suis très vite confrontée à un problème méthodologique, car il y a une très grande quantité d'éditions de ces poésies. Et si on se penche sur ces recueils d'un peu plus près, on peut être frappé par un recueil en particulier, édité en 1695, après la mort d'Antoinette Vézouvière. Un recueil donc, qui est publié par sa fille, Antoinette Thérèse Vézouvière. Donc il faut rajouter le Thérèse. Je ferai souvent Antoinette ou Antoinette Thérèse pour éviter la confusion. Et donc, dans ce recueil, Antoinette Thérèse présente ce recueil comme une seconde édition des poésies de sa mère et se présente dans la préface comme sa publicatrice. Donc, ce cas de recueil familial entre en résonance avec les problématiques de cette journée d'étude, dans la mesure où la fille accomplit deux gestes. Le premier est un geste d'hommage, puisqu'elle cherche à rendre à la mémoire de sa mère les honneurs qui lui sont dus. Donc, le titre de ma communication est directement tiré de la préface. Et le second est un geste de capitalisation sur cette gloire maternelle, puisqu'Antoinette Thérèse profite de ce recueil pour s'auto-publier en insérant ses propres poèmes à la suite de ceux de sa mère dans une section à part entière. La feuille de présentation de la journée d'étude soulevait plusieurs questionnements que j'ai articulés à cette étude de cas. Au-delà du nom, qu'est-ce qu'Antoinette Vézouvière transmet à sa fille et comment cette dernière s'en saisit-elle pour s'insérer dans un champ littéraire en formation? Comment ce champ littéraire a-t-il permis de renforcer une logique familiale et féminine? Et enfin, jusqu'à quel point Antoinette Thérèse joue-t-elle sur la mise en scène de la parenté pour en faire la condition de son activité d'autrice? Donc pour cette étude, je vais procéder en quatre parties. La quatrième est un bonus et six.
Si j'ai le temps. Donc, dans un premier temps, je présenterai brièvement Antoinette Vézouvière et sa fille. Dans un second temps, j'étudierai l'édition sous l'angle de la préface que vous avez dans l'exemplier, car elle constitue l'un des lieux privilégiés pour comprendre les dynamiques de parenté à l'œuvre derrière cette publication. Dans un troisième temps, je m'attarderai sur les pièces insérées par Antoinette Vézouvière. Et dans le quatrième temps, peut-être, j'étudierai la postérité du nom familial Vézouvière au cours des rééditions.
Pour cette première partie, j'emploie la formule « les dames des Ouillères » en référence aux dames des Roches. Je ne sais pas si cette hypothèse de comparaison tient, je vous en dirai un petit peu plus tard dans cette communication.
Donc, Antoinette des Ouillères est assez connue, elle est souvent présentée par les historiens littéraires comme une figure unique majeure du XVIIe siècle, en raison d'une production riche et variée, éditée de son vivant, et à titre posthume dans divers recueils poétiques.
Elle est la fille d'une famille de grands serviteurs du roi et épouse à l'âge de 13 ans le seigneur Vézouvière de la suite du prince de Condé.
Donc très jeune, elle devient l'amie du poète Jean des Hainauts qui l'initie à la philosophie naturaliste et épicurienne, lui inspirant ses idées parmi les plus célèbres, on peut citer les moutons ou les oiseaux.
Mais elle a pratiqué beaucoup d'autres genres, tels que
des odes, des rondeaux, des portraits. Elle traduit des poèmes latins, écrit des pièces en comastique et du théâtre, ça je vous le dis. Elle est investie dans les querelles littéraires de son temps. Elle est connue pour servir de modèle à la satire de la précieuse peinte dans la célèbre satire 10 de Boileau que j'ai mise ici.
Dans la querelle des Phèdres qui a été lancée par Annalisa, elle
a pris le parti de Pradon.
Alors, son mariage avec le seigneur des Ouillères voit la naissance de plusieurs enfants, mais la seule à lui survivre est Antoinette Thérèse, née en 1656.
Alors, les sources sur Antoinette,
Ah non, non, ah, non ça ne marchait pas du tout. Alors, je vous dis.
Ah, c'est bon.
J'espère pas.
Donc, les sources sur Antoinette Thérèse sont bon fondement pour nous. Il arrive parfois de l'avoir mentionnée dans des notices historiographiques liées à sa mère, le plus souvent pour signaler qu'elle a hérité des talents maternels, mais qu'elle n'a pas connu la même postérité. La seule biographie à peu près complète dont nous disposons est écrite par un certain Laboissière de Chambord, homme militaire, membre de l'Académie des Belles-Lettres, et surtout se présentant comme un des amis de Mademoiselle des Oulières. Il est l'auteur d'un éloge historique, c'est celui que vous avez à droite, un texte qui figure en page liminaire de l'édition des œuvres de Madame et Mademoiselle des Oulières en 1747. Donc le texte détaille la vie et la carrière de la mère, puis réserve une petite part à la fille. J'aurai l'occasion de revenir sur ce texte. Mais ce que l'on peut d'ores et déjà dire, c'est que, à propos d'Antoinette Thérèse, c'est qu'elle est une figure beaucoup plus obscure et moins commentée.
J'ai mis pour exemple, alors je suis désolée, une capture d'écran en haut à gauche du dictionnaire de la CFR qui montre qu'elle n'a pas de notice moderne. Mais en rédiger une, c'est se heurter à beaucoup de blancs biographiques, des incertitudes quant à sa date de naissance, plutôt 1662, 1659, 1656. Et une présence plus discrète sur la scène littéraire, car elle écrit beaucoup moins que sa mère. Pourtant, et comme on peut le voir dans la deuxième capture d'écran en bas, sur Data BNF, la fille joue un rôle non négligeable dans la diffusion des écrits de sa mère, puisqu'elle aurait publié plusieurs rééditions des œuvres de sa mère, souvent associées à ses propres œuvres. Et ces rééditions ont leur importance lorsque l'on sait que de son vivant, Antoinette des Oulières tarde à faire publier ses textes. Alors, pour ce tableau, c'est celui que vous avez dans l'exemple V. Donc, j'ai listé les éditions et rééditions des poésies d'Antoinette des Oulières, de la première à 1747. Je me suis arrêtée à 1747, il y en a beaucoup d'autres après. Donc, les poèmes d'Antoinette des Oulières circulent d'abord en manuscrit dans les cercles de sociabilité jusqu'en 1672, quand elle décide de les publier dans l'Hercule Galant. Elle demande ensuite un privilège en son nom en 1678 pour la publication d'un recueil de poésie. Il ne l'active que 10 ans plus tard, en 1688, pour l'édition de son tout premier recueil chez la veuve Sébastien Cramoisi. Donc c'est la première colonne du tableau. Et ce recueil connaît une réédition en 1693 chez Jean Villette, peu de temps avant le décès d'Antoinette des Oulières, qui meurt en 1694 d'un cancer du sein. Et on le voit, elle connaît un grand succès éditorial après sa mort, en témoigne de nombreuses rééditions de ses poésies tout au long du XVIIIe siècle, augmentées de pièces nouvelles au fur et à mesure des publications. C'est toujours ce que j'ai mis en jaune sur le diaporama, c'est à chaque fois qu'il y a une augmentation. Et donc, le recueil qui nous intéresse est donc la troisième colonne, 1695, quand Antoinette Thérèse rend un hommage posthume à sa mère, en éditant chez Jean Villette le second tome des poésies de sa mère.
Alors, pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il en est de ce texte, je vous invite à prendre la préface et de la lire en entier, parce qu'elle n'est pas si longue, et elle m'aidera ensuite pour la suite de mon propos.
Alors, le premier volume que Feu ma mère a donné de ses ouvrages a été si bien reçu, et on m'en demande un second avec tant d'empressement, que je croirais, en ne le donnant pas, ôter au public le plaisir qu'il en attend, et à la mémoire de ma mère, la gloire de ses suffrages. Que ne m'est-il permis dans cette occasion d'oublier pour quelques moments que je suis fille de Madame des Oulières, mon cœur plein d'admiration pour ce qui nous reste d'elle, je me fournirai qu'en lui rendant justice la seule consolation que je puisse trouver dans ma vie. J'oserais dire alors que les regrets que l'on donne à sa perte et l'approbation dont le roi a toujours honoré ses ouvrages ne me laissent point douter de cette flatteuse immortalité qui doit placer le nom de ma mère au rang des noms des plus fameux poètes dont les écrits ont passé jusqu'à nous. Pénétrée du grand exemple qu'elle m'a laissé en mourant, de fermeté, de piété et de résignation aux ordres du ciel, j'ai peine à m'empêcher de rendre à sa mémoire les honneurs qui lui sont dus. Ses sacrés caractères, formés par le sang et cimentés par l'éducation, soutenus par le devoir et par la reconnaissance, ne peuvent s'oublier. Mais quand la vérité m'ordonne de parler, la bienséance m'ordonne de me taire. Je ne parlerai donc que de l'amas que j'ai fait des ouvrages qui composent ce second volume,
dont quelques-uns auraient dû trouver leur place dans le premier, s'ils n'avaient été égarés. Je les ai heureusement trouvés du vivant même de feu ma mère, et comme dès ma plus tendre enfance, ces ouvrages ont été précieux. J'oserais dire ici que j'ai secondé, par les soins que j'ai pris de les conserver, les conseils que ses amis lui donnaient de les faire imprimer. Elle travaillait si peu dans la vue de faire passer son nom à la postérité, que quand elle avait fait quelques ouvrages, soit pour célébrer les glorieuses conquêtes de Louis le Grand, soit pour son plaisir, elle ne songeait qu'à les rendre dignes de l'estime de ce monarque, sans songer à les conserver. Ce soin m'était réservé et je m'en acquitte avec toute l'exactitude et toute la douleur que produit une pareille occupation. J'ajoute aux ouvrages qui ont paru d'elle trois psaumes qu'elle a paraphrasés et qu'elle acheva lorsqu'elle tomba malade pour la dernière fois, après 12 ans de langueur précédée et accompagnée d'un nombre infini de malheurs qu'elle a supportés avec toute la fermeté d'une âme chrétienne. Et ici fait allusion en fait à son cancer qu'elle a dû supporter pendant 12 ans. Je donne ensuite plusieurs pièces imparfaites qu'elle avait commencées longtemps avant qu'elle ne travaillait au psaume, et il y en a du temps qu'elle les paraphrasait. Le respect et la vénération que j'ai pour tout ce qu'elle a fait m'ont persuadé que je devais encore au public ces fragments et le badinage qui les suit. On s'étonnera peut-être de ce que j'ose mettre le peu d'ouvrages que j'ai fait avec ceux de ma mère. Ma ténégrité est grande, je l'avoue, mais quand dans cette occasion je cède aux sentiments de mes amis, je ne fais que suivre l'intention qu'elle avait de joindre dans un second volume mes ouvrages plus simples. On le voit, la partie réservée aux poésies d'Antoinette Thérèse et Petite. Et donc, sur le diaporama, je vous ai mis la préface et cette section poétique vraiment réservée aux poésies de Mademoiselle Guézolière. Donc, vraiment à la suite de celle de sa mère. Donc, trois points m'ont semblé saillants dans ce texte. Cette préface met d'abord en avant une posture de modestie convoquée par beaucoup d'autrices comme manière de légitimer leur entrée dans la privée. Et cette modestie concerne non seulement la mère, mais aussi la fille. À propos de la mère, il est dit qu'elle néglige la publication pour des raisons qui ont déjà été évoquées par Antoinette Désoulières elle-même dans la préface de son premier recueil en 1688. Donc c'est à la suite de l'exemplier. Elle écrit « pour son plaisir » dans la préface de 1688, ce sont des amusements. Et pour le roi, en 88, elle rappelle le grand nom de Louis qu'elle est dans les ouvrages. Ce récit est d'ailleurs soutenu par Lavoisière de Chambord, puisque selon lui, ce sont les amis d'Antoinette Désolières qui avaient sollicité le privilège de ses poésies, et cela à son insu. Elle aurait même différé l'impression du recueil par l'ajout de pièces encomiastiques, en vue notamment d'une pension royale qu'elle obtiendra d'ailleurs plus tard. Cette modestie est renforcée par le fait qu'il faut attendre une initiative familiale pour que des pièces qu'elle avait presque égarées soient conservées par la fille et publiées. Et d'un autre côté, la fille minimise elle aussi son geste de publication en signalant qu'elle ne fait qu'accomplir le désir des amis de sa mère en employant le terme d'ailleurs « j'ai secondé », donc « j'ai assisté à la publication ». Cette posture, pour Antoinette Désoulières, est néanmoins à mettre en perspective avec ce que l'on sait de ses stratégies de publication. Donc comme je l'ai dit, ses écrits circulent dans les cercles lettrés et elle choisit comme premier moyen de publication le journal le plus visible du temps, à savoir le Mercure Galant. Et elle obtient ensuite un privilège en son nom, et il est significatif qu'elle s'engage plus franchement dans la voie du lyrisme officiel au moment où elle accomplit un geste éditorial qui lui permet d'assumer son statut d'autrice, donc il lui fallait certainement ce temps-là. Cette ambiguïté entre la rhétorique de la préface et les actions d'Antoinette Désoulières tient en fait qu'elle agit sur deux plans. C'est une femme de cour, et en tant que telle, elle adopte souvent dans ses écrits et ses paratextes la posture de l'amatrice éclairée, et je renvoie ici au chapitre d'Alain Viala sur les stratégies d'écrivain. Néanmoins, dans les faits et dans ses stratégies d'écriture, de publication et de clientélisme, Antoinette Désoulières agit comme une autrice professionnelle et cherche à ouvrir la voie pour sa fille, on le verra plus tard. Et l'on peut ajouter à cette ambiguïté, bien sûr, le désir d'immortalité par l'imprimé, qui est assez traditionnel dans le cadre de la publication d'un recueil. Pour Antoinette Désoulières, c'est le grand nom de lui mêlé dans ses ouvrages qui conduira sans doute à l'immortalité, on lui cite la préface de 88. Et pour sa fille, c'est le nom de la mère qui agit ainsi, puisqu'elle emploie la formule « je suis fille de Madame Désoulières », donc avec l'emploi de l'auxiliaire est comme prédicat d'existence et de naissance, qui rappelle son illustre filiation. Dès lors, on peut considérer que tous les éloges qui sont faits à propos de la mère retentissent bien sûr nécessairement sur la fille, donc ça contrebalance cette posture de modestie. Le second point sur lequel j'aimerais m'attarder concerne la forte dimension affective de cette préface, qui donne le recueil d'une fonction de consolation, mais aussi le désir par ce geste de publication de rendre hommage à la mère, Antoinette Thérèse insiste beaucoup sur le fait de suivre l'intention de sa mère, devenant son exécutrice testamentaire. Elle insiste surtout sur la façon dont ce geste lui permet elle-même de faire le deuil. Elle est, je cite, « la seule consolation que je puis trouver dans ma douleur ». Et de là vient la thématique du soin à faire cette édition. La fille évoque les soins qu'elle a pris de conserver les pièces. Dans le 8e paragraphe, ce soin m'était réservé, je m'en acquitte avec toute l'exactitude et toute la douleur que produit une telle occupation. Donc Antoinette Thérèse souligne la gravité de son geste, qui vient pallier l'absence maternelle, mais surtout la façon dont, très jeune, elle a été investie d'une mission, puisque la préface insiste sur le legs textuel du vivant de la mère. Antoinette Thérèse souligne qu'elle côtoie les écrits de sa mère dès sa plus tendre enfance, et elle mentionne à plusieurs reprises la préciosité de ses textes à ses yeux. Donc, dès son enfance, elle aurait été investie d'une mission éditoriale et poétique, celle de léguer à la postérité les poèmes qu'elle a eu la chance de voir sa mère écrire, comme si elle était déjà convaincue, avant même la mort de sa mère, de leur postérité. Et pour aller dans le sens d'un recueil consolateur, il était intéressant de signaler que l'édition de 1695 se clôt par des stances irrégulières sur la mort de Madame Desoulières, donc c'est ce que vous avez ici. Dans ces stances, donc, elles sont écrites par la fille, Antoinette Thérèse s'adresse aux muses qui cherchent sa mère en vain et crée un parallèle entre l'absence de la poétesse sur le Montparnasse et son absence aux côtés de la fille. Donc le recueil suit une structure en miroir entre la préface ces stances. Et donc on a peut-être une image assez convenue d'un combo poétique à la gloire de la mère. L'ajout du frontispice que j'ai mis au tout début ici, à l'effigie d'Antoinette Desoulières, ce frontispice est ajouté, là l'édition est de 1705, mais il est présent aussi en 1695. Il n'est présent qu'en 1705. Il vient par la suite accentuer cette dimension. D'après la Boissière de Chambord, l'estampe aurait même été gravée par Van Schuppen à la demande d'Antoinette Thérèse, sur le modèle d'un portrait de sa mère réalisé par Elisabeth Sophie Quéron, qui a un investissement éditorial de la part de la fille, et la volonté peut-être de donner une seconde vie par l'imprimé à sa mère. Alors, le troisième point de cette préface porte sur la transmission et l'héritage. On le voit, le texte est traversé par l'isotopie de la mémoire. Ceci nous permet de nous pencher peut-être sur la question du matrimoine, qui est beaucoup commenté par Aurore Evin et étant défini comme, ici je le prends comme étant ce qui est hérité de la mère. Je le nourris aussi des réflexions sur l'héritage par Kenny dans son livre. Je résume les aspects qui m'intéressent ici, mais selon Kenny, la transmission familiale repose non seulement sur un héritage matériel, économique, mais aussi sur un héritage immatériel, qui qualifie de socioculturel. Ce second héritage est particulièrement important dans le cadre de l'écriture en famille, puisqu'il peut comprendre la transmission d'un statut social, d'une éducation, d'une réputation familiale, mais aussi des réseaux de clientélisme et de mécénat. Et on retrouve toutes ces formes d'héritage chez les Desoulières. J'ai distingué trois niveaux en fait, de matrimoine, de transmission. Le premier niveau vient rappeler ce que la fille doit à la mère par l'éducation. Celle-ci est d'abord religieuse, puisque la fille sollicite l'image de l'exemplum en rappelant le grand exemple de fermeté, de piété et de résignation aux ordres du ciel, et les sacrés caractères formés par le sang et cimentés par l'éducation. Il s'agit donc d'une éducation religieuse, dans un premier temps, mais aussi littéraire, puisque la préface précise la proximité d'Antoinette Thérèse avec la pratique d'écriture de sa mère, comme je l'ai dit. Ces éléments renvoient à une réalité biographique sur la formation littéraire d'Antoinette Thérèse. Dans son éloge historique, la Boissière de Chambord précise que la jeune fille, donc Antoinette Thérèse, je cite, « avait été élevée dans le sein même de la poésie et qu'elle eut pour maître, en plus de sa mère, Corneille, Charpentier, Benserade et tous les gens de mérite qui fréquentaient Madame Desoulières. » Donc cette précision, en plus de ce que nous dit la fille dans la préface, permet de creuser un peu plus la question du champ littéraire avec celle de l'appartenance sociale et familiale. Par les liens du sang d'abord, il y a l'idée biologique qu'Antoinette Thérèse hérite des talents de sa mère, et surtout de disposition naturelle à la pratique de la poésie. Les mots sont de la Brassière de Chambord. Donc une hypothèse que, selon laquelle le talent poétique se transmet par la génétique, on le voit vraiment avec les ouvrières. Et cette disposition naturelle est renforcée par une éducation donnée personnellement par la mère, ce que dit la préface et ce que dit la Brassière de Chambord.
La famille joue donc un rôle éducatif, mais aussi relationnel,
puisqu'elle sert de relais
en mettant la fille en contact avec des érudits et des auteurs,
donc c'est le cas de Ben Serra, Charpentier, etc.
La fonction d'Antoinette des Ouvières est donc cruciale,
dans la mesure où c'est elle qui permet une extension du réseau en dehors du cercle familial, facilitant ainsi les débuts littéraires de sa fille. Enfin, il est intéressant de lier cette question de l'éducation à celle de la position sociale des Ouvières. Cet investissement dans l'éducation par la mère peut se comprendre aussi comme un moyen de promotion sociale dans un milieu de cour.
C'est une hypothèse que je fais en présentant les Desouvières comme une famille aristocrate instruite. Par le même biais, il y a aussi une promotion des qualités lettrées de la mère, dont la fille serait en quelque sorte la vitrine. Et je pense aussi peut-être avec les Desouvières, le nom Desouvières se distingue avec ces deux femmes et acquiert en notoriété au moment où on a aussi une autonomisation
des auteurs au sein du champ littéraire. Donc je pense qu'il y a, cette logique familiale vient renforcer en fait une logique aussi de position sociale
dans le champ littéraire. Le second héritage
est un héritage poétique, bien sûr,
et de là vient la défense de la mémoire de sa mère
comme poétesse. La préface mentionne l'entrée d'Antoinette des Ouvières dans un panthéon poétique au rang des noms de ces fameux poètes.
Et il est possible de voir là une allusion au débat du temps sur la manière dont les femmes de lettres peuvent passer à la postérité,
puisque l'année même de la mort d'Antoinette des Ouvières en 1694, Marie-Jeanne Héritier écrit en réponse à la satire 10 de Boileau, le triomphe de Madame des Ouvières reçut 10e muse au Parnasse, dit à Mademoiselle de Scudéry. Et donc peut-être que la préface de la fille peut se comprendre dans ce contexte et serait alors un panégyrique tel qu'on en trouve dans les listes de femmes illustres. Le matrimoine correspondrait alors ici à la transmission et à la défense par la fille de l'œuvre maternelle.
Et dans ce sens, la formule « je suis fille d'Antoinette des Ouvières » sert aussi à défendre l'autorialité, serait une forme de revendication du statut aussi d'autrice de la fille.
Et le troisième héritage, donc le troisième niveau pardon, à ces matrimoines, est quelque chose qui n'est pas évoqué par la
préface,
puisqu'il s'agit d'un héritage matériel et économique. Alors pour l'expliquer, je vais revenir sur quelques éléments biographiques sur la famille des Ouvières. Je m'appuie pour cela sur un article de Volker Schroeder sur Antoinette des Ouvières et le roi,
mais aussi
sur les travaux de l'historienne Christine de Sauve.
Je suis désolée parce que
je l'ai évoqué étant tout petit, mais je vais en faire le résumé.
Donc, à la mort de son époux en 1693,
Antoinette des Ouvières reçoit une pension royale.
Et elle obtient d'ailleurs le statut juridique de la veuve qui lui accorde une maîtrise de son patrimoine. Lorsqu'elle meurt en 1694, l'héritier de ses biens personnels est son fils, Jean-Alexandre, qui est le cadet d'Antoinette Thérèse.
Antoinette Thérèse est la première et l'aînée. Et cette dernière aurait reçu, d'après les archives, en considération des services de son père, une pension de 400 livres en mars 1694. Cette pension s'élève ensuite à 600 livres lorsque meurt, 6 mois plus tard, son frère. Et selon la Boissière de Chambord, Antoinette Thérèse, et c'est ce qui est écrit ici, aurait renoncé à la succession de son frère, se trouvant ainsi seule héritière du nom et des talents de sa mère. Ce refus d'héritage est à mettre en perspective avec ce que l'on sait de la famille des Ouvières. Le mari d'Antoinette des Ouvières meurt criblé de dettes. Dettes qu'il lègue à son épouse, qui décède elle-même dans l'inconfort financier. Il importe donc à Antoinette Thérèse de refuser cet héritage. Et la Boissière de Chambord précise un petit peu plus loin d'ailleurs que même en refusant cet héritage, malgré ce renoncement, elle doit s'acquitter quand même de certaines dettes familiales qui seraient notamment dues à son frère, à son oncle. Et donc poursuit elle aussi, en fait, comme sa mère, une carrière dans un grand inconfort. Elle enchaîne 3 projets de mariage qui échouent et elle a largement dépassé la trentaine. Le seul héritage économique en réalité dont elle dispose consiste en sa dot, la pension royale qu'elle aurait obtenue grâce aux demandes de gratification de sa mère, le service militaire aussi rendu par son père.
Et donc de sa mère, de ce matrimoine en fait matériel, on pourrait dire,
il lui reste peu de choses. Et c'est pourquoi elle met autant l'accent dans sa préface
sur ce qui ne relève pas d'une transmission économique, mais d'une transmission symbolique. Et si on peut chercher un héritage matériel quelque part, en fait, il s'agit de cet amas de poésie qu'elle a conservé et donc qu'elle a vendu pour impression à Jean Villette.
Alors, ceci m'amène vers le troisième point.
C'est dans cette démarche que s'éclaire l'insertion de ses propres poèmes.
Bien que modestement, Antoinette Thérèse signale qu'elle ne fait qu'accomplir
le désir maternel, il n'empêche qu'elle profite du capital socio-économique de sa mère pour la publication de ses propres écrits, qui jouissent dans le recueil d'une section à part entière, avec une page de titre.
Donc ces opérations étaient en réalité préparées par sa mère, puisqu'à la fin du recueil de 1688, Antoinette Deshoulières
justifie l'insertion d'une ode écrite par sa fille ayant remporté le prix de poésie de l'Académie française de 1688. L'introduction de l'ode vient imposer l'auctorialité de sa fille pour, je cite, « désabuser le public des impressions qu'on lui en a données », c'est-à-dire en dépit des accusations selon lesquelles la mère aurait pris part à l'écriture.
Et elle poursuit
« je n'ai de part que les avis que je lui ai donnés qu'elle m'a demandé comme à une amie ». Donc, il y a presque une sororité, en fait, dans cette façon dont la mère et la fille se présentent. Et cette insertion laisse supposer qu'Antoinette Deshoulières
cherche à lancer la carrière de sa fille et vient soutenir le récit selon lequel la mère avait bien l'intention de publier sa fille dans son prochain recueil. Donc, l'édition de 1695 prend plutôt l'allure d'un recueil préparé entre mère et fille plutôt que d'un recueil fait à la demande des amis.
Et c'est pourquoi je me
permets une comparaison entre cette stratégie de publication et les recueils des Dames des Roches, qui ont été étudiés par Mathilde Vidal et qui m'ont suggéré ce lien.
Donc, Madeleine Neveu, la mère et sa fille Catherine,
publient leurs œuvres ensemble au sein des mêmes recueils
et ne cessent de revendiquer leur attachement mère-fille dans des pièces mettant en scène leur parenté, avec des épîtres qui se répondent, créant un lieu d'énonciation singulier entre deux mères féminines. Ce dialogue n'est pas aussi fort chez les Deshoulières, car on trouve très peu de pièces adressées à l'une ou à l'autre. J'ai montré l'insertion de l'ode tout à l'heure, mais en fait, il s'agit vraiment de moments assez exceptionnels dans les recueils. Pour Antoinette Deshoulières, il y a plus un dialogue thématique qu'un dialogue vraiment énonciatif.
En effet, la première section du recueil de 1695, consacrée aux poésies d'Antoinette Deshoulières,
se termine par une série d'épîtres et lettres animalières
où Antoinette Deshoulières fait dialoguer son épagneul gars
ou sa chatte grisette avec Tata, le chat de la marquise de Montglas, ou Cochon, le chien du maréchal de Vivonne.
Donc ici, les animaux servent d'intermédiaires pour s'adresser aux propriétaires.
Directement à la suite de cette série, donc la première partie en fait, des poésies de la mère,
dans la deuxième partie des poésies de la fille, on trouve une petite comédie intitulée « La mort de Cochon », mettant en scène donc les mêmes personnages.
La pièce est écrite en 1688 comme un clin d'œil
aux amis de la mère,
mais surtout pour rendre hommage
au maréchal de Vivonne, ami et protecteur d'Antoinette Deshoulières, mort la même année. La scène a lieu à Paris, dans la maison de Madame Deshoulières, et l'intrigue repose sur la mort de Cochon, amant de la chatte Grisette. Et tout l'enjeu est de savoir qui prendra la place de Cochon dans le cœur de Grisette, ou peut-être aussi, il ne s'agit pas de dire qui prendra la place du maréchal de Vivonne, le protecteur d'Antoinette Deshoulières. Alors, j'ai deux remarques à faire sur cette petite comédie. Le premier concerne le choix du nom Grisette, qui désignerait la chatte d'Antoinette Deshoulières.
Or, ce nom est également employé par Catherine Desroches dans une de ses pièces intitulée « Épitaphe de Grisette », qui pleure la mort d'une ânesse intitulée Grisette.
Alors, le lien s'arrête là. Il n'y a pas d'autres références vraiment explicites aux Dames Desroches dans le recueil des Deshoulières. Et je ne sais pas si le choix de la part d'Antoinette Deshoulières est volontaire. Je laisse cette question ouverte. Mais je pense que ce détail peut avoir son importance si on conserve l'hypothèse d'une inspiration sur un autre modèle de publication mère-fille.
Et la deuxième remarque concerne la reprise directe des noms des protecteurs de la mère par la fille.
En plus de cette pièce qui porte sur la mort du maréchal de Vivonne, on trouve de nombreux poèmes écrits par Antoinette Thérèse, adressés au même correspondant que sa mère, des épîtres adressées au duc de Vivonne, à Benserrade, à Monsieur de Caz. La publication des pièces de sa mère, donc, et les siennes propres, celles de la fille, fait apparaître tout un réseau de protection dont la fille pourrait bénéficier. Il s'agit donc là bien d'un héritage immatériel transmis par la mère, et le recueil joue un rôle déterminant pour la trajectoire d'Antoinette Thérèse en tant qu'autrice, puisque la publication permet de rappeler les noms illustres liés à la mère, et c'est aussi l'occasion de renouveler l'attention du roi, puisque le recueil contient des nouvelles pièces encomiastiques adressées à Sa Majesté. Alors, la stratégie d'Antoinette Thérèse visant à capitaliser sur la gloire maternelle et bénéficier de son réseau implique cependant de reproduire les pratiques scripturaires de la mère. En effet, si l'on se penche de plus près sur les écrits d'Antoinette Thérèse, il apparaît que cette dernière ne cherche pas vraiment à exister dans sa singularité en tant que poétesse. En témoigne la reprise des motifs, des personnages, des genres poétiques pratiqués par la mère, mais aussi des pseudonymes et des dédicataires sollicités. Cela va donc bien au-delà du topos de modestie, puisqu'il y a presque un effacement. Antoinette Thérèse se présentant comme le prolongement parfait de sa mère, bien comme s'il s'agissait de faire exister sa mère à travers elle. D'ailleurs, ça va jusqu'à son prénom, puisqu'elle se nomme aussi Antoinette Antoine Thérèse. Ceci impacte nécessairement la place dans le champ littéraire d'Antoinette Thérèse, qui, en tant qu'héritière du nom et du talent de sa mère, aurait pour fonction de la remplacer. C'est en tout cas le récit que tisse la Voissière de Chambord, qui donne à la fille presque tous les agréments de la mère. Il y a toujours une comparaison systématique. Et à propos de la nomination d'Antoinette Thérèse à l'Académie des Poétries de Padoue en 1899, c'est ce que j'ai mis dans l'encadré rouge, la Boissière précise « Ses savants ne jugèrent pas qu'aucune autre pût mieux remplacer sa mère, qui était membre avant elle. » Donc elle reprend presque le siège en fait de sa mère. Cette dualité mère-fille systématique prend toute son importance dans les rééditions, et je vais aller beaucoup plus vite là-dessus, ça va plus être une conclusion. Je vais directement aller à la conclusion, mais simplement pour dire que dans toutes les rééditions, et c'est ce que l'on peut voir ensuite dans les titres, en fait, des recueils des poésies qui sont rééditées après 1695, on a presque toujours une mise en avant d'Antoinette des Gilières au détriment de la fille, mais en même temps, et Antoinette Thérèse n'a pas de recueil en son nom propre. Elle n'a pas cherché non plus, en fait, elle n'a pas eu d'initiative, en fait, de recueil singulier. Et en même temps, on peut se demander si elle n'a pas...
En fait, je ne pense pas qu'elle ait forcément cherché à le faire, puisqu'elle s'appuyait vraiment sur la gloire de sa mère.
On reviendra peut-être dans les questions, mais...
Dans les
rééditions, en fait, c'est toujours au bénéfice de la fille.
Désolée, c'est mal exprimé. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que cela a un impact aussi finalement sur les éditions modernes aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucune...
presque toutes les rééditions modernes sont consacrées uniquement à la figure d'Antoinette des Houlières, les poésies d'Antoinette Thérèse ayant été évacuées. La seule édition moderne comprenant les deux poésies est celle de l'Enchantement des Chagrins. Donc on peut se demander aussi
il semblerait qu'Antoinette Thérèse...
Antoinette des Houlières peut exister en fait sans sa fille, mais Antoinette Thérèse ne peut exister en tant qu'autrice dans la publication sans sa mère.
Mais je l'ai dit, cela doit beaucoup finalement à la relation qu'elle tisse elle-même. Entre son autorité et l'écriture maternelle.